merci à ce vieil Poirel. Il a réussi à nous tenir en haleine. On n'a pas le résultat final, d'ailleurs, il nous laisse en suspens, là, mais c'est très beau. Et en plus, nous donne l'envie de pouvoir lire, de vraiment de lire cette fois-ci en français, le livre que Dominique Poirel a sorti, à sujet de ce texte. Alors, s'il y a probablement des questions, c'est à vous de jouer la carte.
Oui, je veux bien commencer. J'ai deux petites questions, ou suggestions, c'est comme vous voulez. D'abord, j'ai été frappé par une ressemblance avec la façon dont procède la première admonition, qui est également une citation biblique, et puis ensuite un reproche que fait le Christ à ceux qui vénèrent mal l'Eucharistie, ça correspondait aux idées de l'homme du moment, et puis ensuite un commentaire irénique et Irénée est capable de lancer. Ça ressemble beaucoup comme style. J'ai lu le texte que vous avez publié, et ça m'a beaucoup frappé ce rapprochement de la première admonition. Et puis la deuxième remarque, c'est également que ce genre littéraire ressemble beaucoup à ce qu'on appelle les soliloques. Saint Bonaventure a un soliloque, c'est assez célèbre. Donc Saint Bonaventure a un soliloque dans lequel il y a également une élévation personnelle de la prière, ensuite des reproches faits par le Christ, et puis ensuite un acquiescement. Or, ce n'est pas Saint Bonaventure qui a inventé ça, puisqu'il l'a pris en particulier à M. de Augustin, et également à Saint Anselme et à Saint Bernard. Donc, le texte de Bonaventure est un petit peu un santon emprunté à d'autres soliloques. Donc, le soliloque, ça veut dire quelqu'un qui parle pour lui-même dans sa prière. Et il se donne lui-même les questions et les réponses. Et dans les réponses qu'il donne, il fait parler le Christ. Et donc, ça correspond tout à fait à ce style du Notre Père.
Merci beaucoup, Père. C'est très éclairant et je vais regarder ça de près.
Le frère Luc, c'est un puits de science. Hein. Oui. Qui a la parole ?
Merci Dominique. J'ai été frappée juste en entendant ce que tu as cité de la quatrième demande. Par ce qui m'a frappée, c'est que dans mon esprit, donc, la demande du pain est adressée au Père, et que cette prosopopée du Christ, non seulement, en fait, par cette prosopopée, non seulement l'auteur du commentaire en fait, s'identifie, devient le ventriloque du Christ, mais en même temps, en fait, on a l'impression que le pain est adressé au Christ, et la demande du pain s'adresse au Christ désormais. Et donc, que ce Christ efface la figure du Père à qui on demande le pain dans Notre Père. Enfin, je ne sais pas comment m'exprimer, à moins que ce pain devienne le pain eucharistique. Donc, il y a toute une théologie, me semble-t-il, derrière tout ça, et je voudrais savoir s'il y a des traits comme ça, je ne connais pas trop Saint-François par ailleurs, et donc je voulais savoir s'il y a des traits comme ça ailleurs dans la spiritualité de Saint-François. J'entends le rapport entre le Père et le Fils.
Oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est un trait qui m'a frappé dans le texte, c'est qu'on glisse facilement du Père au Fils, et à mon avis, c'est un indice que c'est pas un théologien. Le théologien se permettrait pas ça, il aurait peur qu'on lui tape sur les doigts. Alors que là, on dit le Père, après on dit le Seigneur, et puis après c'est le Christ. Enfin, on glisse, ça, c'est pas un problème. Ça veut pas dire qu'il confond, mais finalement, c'est peut-être de la très bonne théologie de passer du Père au Fils dans l'union et la distinction quand même. Mais alors, moi j'aurais tendance à penser que chez les franciscains passés par les écoles et les franciscains théologiens, on ne ferait pas ça. Mais cela dit, c'est vrai que alors le fait de demander le pain quotidien, effectivement dans le texte, on voit que ça devient le pain eucharistique, qui est en même temps, et théologiquement c'est très fort, identifié au Christ en croix. Donc le Christ en croix, le pain lui-même, celui qui a dit « je suis le pain descendu du ciel » dit « vous demandez le pain quotidien, bah, regardez ce que vous m'avez fait ». Donc, alors, cela dit, d'autres plus savants que moi pourront peut-être dire si chez les franciscains on trouve quelque chose d'analogue.
Juste, le glissement du père au fils est intéressant parce qu'effectivement, dans les écrits de François d'Assise, en particulier dans la finale de la lettre à Toulor, et dans plusieurs autres passages, je crois que j'en avais recensé au moins 6 ou 7, il y a un glissement, mais du Père à la Trinité chez François. Un peu, c'est presque photographique. François s'adresse au Père, qui pour lui est la source. Il regarde le Père, et puis un peu comme si on élargissait la focale, le champ, on trouve la Trinité parce que les trois sont indissociables. Mais glisser du Père au Fils, en revanche, j'ai pas souvenir qu'on ait dans les autres écrits de François. Donc, enfin, dans les écrits de François. Et voilà. Et sinon, mais j'aurais d'autres choses à dire, mais je ne veux pas trop monopoliser. Peut-être juste les deux choses. C'est, moi, je reste quand même attaché au lexique et au thème. Il y a une très grande unité de vocabulaire sur les choses importantes dans les écrits de François. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas effectivement des mots inédits, des apax dans pas mal de textes, mais il y a un noyau qui est très important pour François, avec un vocabulaire qui a une grande cohérence, une grande rigueur. Je pense que François, quand il a dû davantage dicter de textes qu'il n'en a écrit lui-même, mais il vérifiait vraiment le vocabulaire employé. C'est probablement après sa mort qu'il y a eu des nouveaux mots qui sont apparus. Par exemple, François, pour parler des frères en responsabilité, emploie toujours « ministère »,« ministre », ou sa formule favorite « ministère et servus ». Ministre et serviteur, on pourrait presque dire serf ou esclave. Et deux fois, c'est dans les admonitions 3 et 4, apparaît le terme praelatus, supérieur ou prélat, mais ça c'est clairement un copiste quand ont été regroupées les admonitions, je pense, après la mort de François.
Ah oui, oui.
Et ce qui me gêne sur le vocabulaire, ton argument est intéressant, et je pense que tu as raison de souligner la fragilité de l'argument sur le vocabulaire, mais quand même, il y a un noyau d'expressions importantes qui rejoint une thématique chez François, la thématique de Dieu souverain bien, seul possesseur des biens, à qui tout bien appartient est très fort, et c'est là où j'aime bien le Notre Père qui figure dans cet témoignage classique, c'est que dans le commentaire de la deuxième demande, il y a ça. Tu es le tout bien, et ça c'est vraiment une conviction profonde chez François. Ça peut être un texte qu'il s'est approprié ou qu'il a enrichi de ce passage, ça c'est très possible. Mais je suis un peu gêné quand même dans notre texte là de ne pas voir cette insistance sur le bien ou sur la Trinité. Mais en revanche, avant, j'ai lu ton petit livre, j'ai commencé par la traduction, puis après ton commentaire. Et dans la traduction, il y avait des passages où j'ai noté ça, ça pourrait être de François, ça non. Ça, ça pourrait être de François, ça non. Ce qui pourrait corroborer l'hypothèse de plusieurs auteurs.
Merci.
Est-ce qu'il aura apporté sa richesse personnelle, parce que les interventions qu'on vient d'avoir très intéressant, je trouve.
C'est un renseignement que je demande. Ça ne porte pas directement sur le pater. C'est par rapport aux autres textes du manuscrit.
Oui.
Est-ce qu'il y a actuellement une étude comparable qui se fait sur les autres textes ?
Oui, oui, absolument. Tous les textes ont été étudiés, pris en charge par
transcrits.
Alors, il y en a certains qui n'ont pas fini de transcrire parce que c'est difficile. Et puis faut bien vérifier parce que parfois on a du mal à comprendre. Il y a des fautes de copie, donc on est un peu perdu. Et donc oui et en septembre 2017, il y a eu un colloque entièrement consacré à ce manuscrit. C'était un peu le groupe qui avait travaillé sur le manuscrit qui rendait sa copie en invitant, alors en présentant les résultats et en invitant des spécialistes invités à dire ce qui leur en semblait. Et donc les actes sont en train d'être terminés, d'être préparés. Ça va paraître cette année sûrement.
On a beaucoup parlé dans le temps et dans les écrits franciscains d'un autre père paraphrasé. Quel rapprochement est possible entre celui que tu as fait là et celui que moi je connais? Enfin, je suis très attaché à celui que je connais parce que c'est avec ce texte que j'ai appris à prier. Vraiment, je dois beaucoup à ce texte dans mon histoire parce que vraiment, je ne savais pas comment m'y prendre. Et c'est l'un d'autres pères paraphrasés qui m'a vraiment aidé à rentrer dans la prière franciscaine. Ah oui.
Alors, il y a un rapport, non?
Oui. Alors, à vrai dire, bon, je suis mal placé pour en parler, puisque comme je suis arrivé avec des questions portant plus sur des questions d'authenticité, j'étais plus sensible à... J'ai regardé plus leurs différences pour essayer de comprendre. Et je me suis malheureusement pas assez intéressé à la beauté spirituelle de ce texte, mais plus à sa beauté littéraire, parce que pour moi, c'était justement un indice d'une grosse différence. Et en lisant ce pater paraphrasé, voilà, je retrouve les habitudes littéraires, stylistiques des auteurs dont j'ai l'habitude. Mais cela dit... Bon, il faudrait que je prenne du temps pour reprendre votre question et voir en quelle mesure, parce que malgré tout, ça reste deux commentaires du pater, donc forcément il y a...
Le premier n'a pas été commenté, il n'y a pas le même travail qui a été fait sur le Notre Père paraphrasé traditionnel actuellement. Il n'y a pas de commentaire tel que tu l'as fait pour le second.
Ah Oui.
Il y a quelques articles dans les revues franciscaines, dans les Michel Alea, même peut-être les Connecta Alea. C'est en italien ou en d'autres langues. Mais en français, je n'en connais pas. Mais des articles ponctuels sur tel écrit de Saint-François, bon, dans le pater, ça ne manque pas, oui. Seulement, il faut chercher. Quoi.
Parce que je me permets aussi de dire aussi que le pater paraphrasé que nous connaissons tous, celui qui nous est plus coutumier, quoi. Effectivement, de lequel on peut, sans travailler d'indiscrétion, prier aussi.
Bien sûr.
Oui. Mais alors, si c'est pas non plus pater paraphrasé normal, et pas non plus d'une. On n'est pas tellement sûr non plus que son auteur soit Saint François, c'est quand même aussi de la première communauté franciscaine, sûrement.
Et
donc, c'est ce qui est un rapprochement avec celui-là aussi, parce que celui-là, on peut dire aussi que c'est un pur produit de la première communauté franciscaine.
Oui, enfin, en tout cas, oui. Et puis, vous disiez que vous aimez bien le prier. Nous savons que Saint François aimait bien prier ce pater. Donc, c'est. Oui, oui. Donc, il est authentiquement franciscain.
Peut-être mieux que le premier.
Ben oui, parce que. Enfin. Je veux dire, le pater qu'aimait réciter Saint François, c'est le fait qu'il soit attaché, c'est quelque chose d'extrêmement important, un signe de franciscanité peut-être encore plus fort que le fait de, supposons que celui que j'ai édité soit authentique, nous est parvenu à travers des intermédiaires, alors que celui-là, on sait que Saint François, comme vous, l'a pratiqué et l'a aimé.
Il y a une différence, je crois, entre le pater traditionnel, enfin celui qu'on connaît, donc, c'est vraiment une prière.
Oui.
Tandis que votre texte, c'est vraiment une exhortation.
Oui, absolument.
C'est la grande différence. C'est deux genres littéraires, me semble-t-il. Nous les appelons commentaires du pater, c'est deux commentaires du pater, mais l'un est fait pour la prière, l'autre est fait pour la prédication. C'est pas tout à fait pareil.
Oui, oui, absolument.
On s'adresse aux autres, on les interpelle et on veut leur conversion.
Oui.
Dans le pater de saint François, attribué traditionnellement, c'est une prière offerte à tout le monde.
Oui, absolument. Oui. Je connaissais un prêtre qui disait que pour amener les personnes indifférentes à la conversion, il y avait deux méthodes, le plan incliné et le coup du lapin. Et là, notre texte, c'est clairement le coup du lapin.
C'est bon. Bravo. Je pense que ça correspond bien sûrement d'ailleurs à une coloration franciscaine qui est quand même d'aller dans l'exhortation quand même, plus que dans le développement théologique.
Oui.
Enfin, tel que nous, on a rencontré les franciscains et les capucins, on voyait que c'était vraiment pour eux de faire appel à ce genre de... faire appel à la conscience des uns et des autres, alors avec des effets oratoires peut-être, sûrement, mais aussi beaucoup d'improvisation et pour arriver à toucher les cœurs. En fait. Vous avez parlé de un texte proche dans l'affectivité, en fait. Ce que je crois, à mon avis, c'est une coloration franciscaine, plus qu'une coloration dominicaine. Si vous me permettez de dire.